l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Catus 92.5.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Présence Midi en direct. Nous sommes très heureux d'être avec vous à la mi-journée. Bonjour à vous, Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver pour une belle émission en perspective. Dans un instant, l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec vous.
Oui, quelques rendez-vous à noter de part et d'autre du département et du diocèse des Hautes-Pyrénées.
Dans les Hautes-Pyrénées, on va y rester puisque vous allez nous présenter l'APF France Handicap.
Oui, nous serons dans quelques minutes avec Odile Le Galliot. Elle est la directrice de l'APF France Handicap dans les Hautes-Pyrénées. Elle nous présentera la structure, mais elle nous parlera aussi de deux sujets majeurs, le remboursement des fauteuils roulants et puis l'accès au vote pour les personnes en situation de handicap. Ça vient à point nommé, puisque vous savez, Gilles, que ce week-end, oui, c'est le premier tour des élections municipales.
Exactement. Voilà, donc votre invité, on va en parler dans quelques minutes avec vous. Et puis dans quelques jours, dans quelques semaines, c'est le printemps. Ça sera peut-être l'occasion pour vous de ressortir le vélo, la bicyclette.
Bah oui, mais moi, je fais du vélo même,
toute l'année.
Même l'hiver.
Bon. Alors, je vais vous proposer un parcours qui s'appelle Vélo Sud. Voilà, c'est un parcours qui vous permet de rejoindre l'Atlantique et la Méditerranée en vélo. Voilà.
Il faudrait que vous m'accordiez des vacances pour ça, Gilles.
Mais oui, bon. Bah, ça dépend combien de temps vous allez le faire.
Bon, stop.
Allez, tout de suite, on retrouve Kevin Mouveau pour les titres à la une de l'actualité régionale.
Une première médicale pleine d'espoir. Au CHU de Toulouse, un patient diabétique de type 1 a bénéficié d'une greffe inédite. Un rein et des cellules pancréatiques transplantées en même temps grâce au don d'une personne décédée. Résultat, il n'est plus dialysé et produit une partie de son insuline. Toulouse va voir la ville en rose. Le grand carnaval de la ville se tient samedi soir avec le défilé Tous en rose. Le cortège partira du boulevard d'Arcole pour rejoindre les allées Jean Jaurès. Plusieurs rues seront fermées et la station de métro Jean Jaurès ne sera plus desservie dès 16h. 40 ans et toujours dans la rue. Le festival d'été de Vaour dans le Tarn prépare une édition anniversaire du 4 au 9 août. Pour marquer l'événement, les organisateurs lancent un appel à contribution afin de financer une programmation spéciale et un spectacle inédit. La parole aux jeunes talents. Le concours départemental d'éloquence se tient mercredi soir au centre universitaire de Montauban. 10 lycéens du Tarn et Garonne défendront leur plaidoyer autour d'une figure locale, Caroline Aigle, première femme pilote de chasse française. Une sortie très attendue sur les écrans. Le film Planète, coécrit par le scénariste aveyronnais Alain Leirac, sort ce mercredi dans près de 140 salles. Un long métrage sans parole, déjà récompensé notamment au Festival de Cannes et à Annecy. Enfin, dernière ligne droite pour les footballeuses de Colomiers. Troisième du championnat de Régional 1, elle compte 4 points de retard sur le leader Nîmes à 7 journées de la fin. Objectif, décrocher la première place et accéder au barrage pour la montée.
Voilà, et ces titres seront développés à 12h30 dans le journal régional.
Radio Présence à Castelsarrasin, 93.3.
L'agenda des diocèses aujourd'hui, c'est à Tarbes qu'on s'arrête avec l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes avec Anne-Rose Jankovic. Rebonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Pour débuter cet agenda, on va égrener les différentes propositions de carême et on commence avec cette soirée débat avec le CCFD, c'est ce jeudi.
Oui, le CCFD, comme chaque année, se mobilise pendant le temps de carême et cette année, le CCFD Terre Solidaire nous invite à mieux comprendre la souveraineté alimentaire. Alors des rendez-vous dans les paroisses sont organisés pendant tout le temps du carême. Ce sont des soirées qui ont lieu dans différents coins du diocèse de manière simultanée. Ce sont tout le temps des rencontres en soirée à 19h et ce jeudi 12 mars, eh bien, vous avez rendez-vous pour découvrir notamment le témoignage des partenaires du CCFD Terre Solidaire au Maroc et vous pourrez suivre ces témoignages et cette soirée à 19h, donc jeudi 12 mars depuis la maison Saint-Paul à Tarbes, mais également depuis Bagnères-de-Bigorre, dans la salle paroissiale à Bagnères-de-Bigorre, et également depuis Cotteret, dans la salle à côté du cinéma. Donc dans ces trois lieux, à 19h, ce jeudi 12 mars, pour découvrir un petit peu ce qu'est la souveraineté alimentaire, avec notamment ce témoignage donc des partenaires du Maroc.
Autre proposition de carême, c'est ce samedi à Sénac.
Oui, bol de riz, vivre un moment de partage pendant le temps du carême. Alors la soirée, la proposition commence à 18h en l'église Notre-Dame de l'Assomption à Sénac, donc à 18h pour la messe. Et puis à 19h, ensuite, il y aura un bol de riz dans la salle des fêtes du village. C'est une proposition qui est ouverte à tous, bien sûr, et qui permet eh bien, de marquer un temps à la fois convivial mais solidaire, puisque vous pourrez donner une participation qui aidera une œuvre de caritative, une œuvre de charité à Madagascar.
Voilà, pendant ce temps de carême à Bagnères-de-Bigorre, on propose du cinéma tous les mercredis.
Oui, tous les mercredis de temps de carême, eh bien, vous avez rendez-vous pour une soirée ciné à Bagnères-de-Bigorre, la paroisse du Haut-Adour, la paroisse du pays de Bagnères, nous propose de réfléchir donc pendant le carême d'une autre manière, à partir d'un film projeté chaque mercredi, dès 20h au 13 rue Pasteur à Bagnères-de-Bigorre. Alors à chaque fois, bien sûr, c'est un film chrétien qui nous invite à cogiter un petit peu et à réfléchir sur le sens de notre foi, mais aussi à échanger sur notre foi avec les autres participants aux soirées. Donc chaque semaine, un nouveau film et mercredi 10 mars, eh bien, vous pourrez visionner le Club des Miracles. Donc rendez-vous à 20h au 13 rue Pasteur à Bagnères-de-Bigorre pour une soirée carême ciné.
Voilà, Club des Miracles, où on voit le sanctuaire de Lourdes dans ce film.
Exactement. Voilà. Et il paraît qu'on rigole beaucoup.
On poursuit avec du cinéma, puisqu'on parle cinéma. Des soirées sont organisées. Là, c'est dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, à Vic-en-Bigorre.
Exactement, je vous emmène à Vic-en-Bigorre. Des soirées ciné, effectivement, sont organisées depuis déjà plusieurs mois. Il s'agit d'un rendez-vous par mois pour, alors là encore, cogiter et se rencontrer. Chaque soirée se passe au foyer Saint-Martin à Vic-en-Bigorre. À chaque fois, la soirée commence à 20h. Elle est ouverte à tous, pour même à partir de 16 ans. Voilà, à chaque fois, ce sont des films qui encouragent à la réflexion. Et le mercredi 18 mars, notez déjà, vous pourrez visionner La Passion du Christ. Effectivement, pendant le temps du carême, eh bien, les thématiques sont adaptées. Donc rendez-vous mercredi 18 mars au foyer de Vic-en-Bigorre, le foyer Saint-Martin, à 20h pour visionner ce film La Passion du Christ et échanger avec tous les participants.
Vivre le dimanche autrement, c'est une proposition de la paroisse Pays de Lourdes.
Oui, du côté rural de la paroisse du Pays de Lourdes, dans l'église de Lézignan à 18h le samedi 14 mars, eh bien, vous êtes invité pour prier les premières vêpres du dimanche. Alors c'est une proposition qui est faite régulièrement, une fois par mois, voilà, dans cette église de Lézignan. C'est un petit village à une dizaines de kilomètres de Lourdes, même un petit peu moins. Vivre le dimanche autrement, eh bien la prière des vêpres le samedi soir à 18h permet de vraiment déjà se plonger dans la prière du dimanche. C'est ouvert à tous, effectivement, et eh bien n'hésitez pas. Donc le prochain rendez-vous, c'est ce samedi 14 mars.
Autre samedi à noter, c'est le samedi 28 mars, cette matinée organisée par la pastorale de la santé sur la fin de vie.
Oui, effectivement, je vous en parlais déjà la semaine passée. C'est une matinée très importante, souhaitée, voulue, décidée par l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, Mgr Jean-Marc Mika, sur cette loi sur les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Samedi 28 mars, de 9h à midi, à la maison diocésaine, la maison Saint-Paul à Tarbes, eh bien, vous avez l'occasion d'entendre, d'écouter, d'échanger, de poser vos questions à des spécialistes, des soignants d'une équipe de soins palliatifs, voilà, des soignants des Hautes-Pyrénées qui sont vraiment expérimentés dans le domaine des soins palliatifs. Également un prêtre qui nous apportera un regard plus théologique sur cette question de la fin de vie. Et puis une juriste, ils échangeront, ils partageront leur point de vue et leur expérience. Et puis ils répondront à vos questions. Vraiment, c'est une thématique, un sujet très important qui nous concerne tous. Il est vraiment important de s'informer donc sur le contenu de cette loi qu'on dit loi de la fin de vie. Eh bien, il y a deux volets, l'aide active à mourir et puis les soins palliatifs. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là? Vous saurez tout lors de cette matinée donc d'information et d'échange samedi 28 mars de 9h à midi à la Maison Saint-Paul à Tarbes.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. On retrouve cette actualité, cet agenda sur le site internet, sur l'application au clocher, sur les autres outils disponibles, notamment sur le bulletin diocésain. Effectivement, le bulletin diocésain, le numéro 76 est sorti, celui entre février et avril. Hein.
Exactement, et dans ce bulletin diocésain, vous pouvez lire notamment un dossier sur les élections municipales. Je vous le disais dans le sommaire de cette émission, mais le premier tour des élections municipales, c'est ce dimanche 15 mars. Et dans son édito de ce numéro 76 du bulletin diocésain, Mgr Mika évoque ce scrutin. Donc voilà, je vous invite à le lire attentivement.
Merci Anne-Rose Jankovic.
Merci beaucoup.
Et vous restez avec nous puisque dans un instant, eh bien, on va vous retrouver avec cette structure qui s'appelle APF France Handicap dans les Hautes-Pyrénées.
Oui, dans quelques minutes, eh bien, je recevrai Odile Le Galliot qui est directrice de APF France Handicap donc dans notre département des Hautes-Pyrénées. Elle va nous présenter la structure et puis nous aborderons avec elle deux sujets majeurs. Le remboursement des fauteuils roulants d'une part et puis d'autre part l'accès justement au vote, aux élections pour les personnes en situation de handicap. Ça tombe bien.
Eh bien voilà, on en parle juste après cette pause musicale. A tout de suite donc à Anne-Rose avec votre invité.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandes. Oh, la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons
Vous avez bien évidemment reconnu l'hymne à l'amour à l'instant. On poursuit ce Présence Midi à 12h15 avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Présence à Moissac, 93.3.
Bonjour Odile Le Galliotte.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la délégation Pyrénées-Gascogne de l'association de l'APF France Handicap. Nous sommes ici dans les locaux de l'APF France Handicap à Tarbes, dans le quartier de l'Arsenal. Merci d'abord de nous accueillir. On va aborder plusieurs sujets avec vous. On va aborder notamment la question du remboursement des fauteuils roulants pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et puis nous parlerons aussi élections municipales. Mais avant cela, on va quand même prendre le temps de découvrir votre délégation. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous dire un petit peu comment ça fonctionne, qui sont les acteurs de ce lieu ?
Ben avec plaisir, et je suis ravie d'avoir l'antenne pour parler et présenter notre association APF France Handicap. Juste un rapide retour en arrière, APF France Handicap a été fondée en 1933, et notamment par un jeune de 19 ans. Aujourd'hui, c'est une grosse association française, une parmi les plus grandes, qui représente les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, que ce soit moteur, psychique ou autre. Ici, dans le département des Hautes-Pyrénées, nous avons une quinzaine de structures au total, donc ce qui fait une implantation assez importante de l'association. On a des structures sur Ordizan, sur Arras-Marsous, sur Argelès-Gazost, et puis on a des services qui interviennent sur l'ensemble du département. La délégation départementale, donc, on vous accueille aujourd'hui dans nos locaux basés à Tarbes, a trois actions importantes. L'action autour de l'accueil, de l'information, quand on a une question qui a trait de près ou de loin au handicap, et bien vers qui on peut se tourner, vers quelle association peut nous répondre. Et on a un service qu'on appelle Handidroit, on vous accueille, on prend le temps de vous écouter, que vous puissiez, j'allais dire, poser votre valise et puis nous parler. On va les aider dans leur démarche, on va les conseiller. Peut-être les orienter vers d'autres associations spécialisées, vers des services. En tout cas, on est là pour qu'à un moment donné, voilà, ils puissent poser leurs questions, quelles qu'elles soient. On a beaucoup, évidemment, l'accès aux droits, des dossiers administratifs, parce que c'est un peu complexe.
Vous les aidez à remplir, oui, à constituer leur dossier administratif ici?
Tout à fait. On les conseille, on peut les aider, on peut leur faire relire avec eux, les aider à comprendre les décisions qui ont pu être prises. Peut-être aussi voir si... vous savez, quand on tire un fil sur une question... finalement on s'aperçoit que derrière il y a d'autres fils à tirer peut-être ou d'autres options qui se présentent, donc ça c'est important, ce temps de l'accueil. Vous disiez tout à l'heure, quand on arrive ici on se sent bien parce qu'on a le sourire, on a le café. C'est très important de prendre ce temps-là avec les personnes. On reçoit des familles beaucoup également, des proches et des personnes en situation de handicap elles-mêmes, mais parfois ça peut être une mairie qui pose une question, ça peut être un commerçant qui pose une question. Bref, c'est un lieu où on peut se poser une question. La seule question que j'ai envie de dire qui peut être idiote, c'est celle que vous ne posez pas parce qu'on ne pourra pas y répondre. Voilà. Le deuxième volet important de notre action, c'est tout ce qui concerne l'accès aux droits, la représentation. On est très présent sur notre département et puis c'est une association aussi à volet régional et national où on va siéger. Ce matin, j'étais à 8h30 en réunion avec la MDPH, par exemple, sur un projet qu'ils ont. On nous sollicite très souvent pour faire avancer la cause, pour pouvoir siéger dans telle ou telle structure. Alors, c'est pas que moi, Odile Le Galliotte, j'ai à mes côtés des élus départementaux, j'ai des personnes bénévoles impliquées et des personnes en situation de handicap. Et on va travailler autour de l'accès aux droits, de la sensibilisation, et ça, c'est un volet passionnant également.
Alors ça c'est très important parce que ça montre aussi que vous ne travaillez pas tout seul en vase clos et que, évidemment, votre action elle est liée à l'action que peuvent mener d'autres structures et notamment les municipalités.
Bien sûr, ça c'est très important de travailler en partenariat. On est inscrit dans une, on vit tous dans une cité, dans un pays, on a des interactions et en fait les personnes en situation de handicap et leurs familles, en fait c'est des gens comme tout le monde. D'abord on est un Français sur six en situation de handicap quand on prend tous les types de handicap. 12 millions de Français en situation de handicap et 12 millions d'aidants. Ça fait quand même un gros...
Ça fait du monde, des personnes qui ont des choses à dire et qui ont des choses à apporter.
Ben oui, mais comme toute différence, je crois qu'on s'enrichit les uns les autres de notre différence. Alors certes, il y a le handicap, mais vous dire que le handicap n'est pas une fin en soi. On peut avoir un handicap, et attention, 80% du temps, le handicap ne se voit pas. Donc, sauf à rester chez vous, enfermé devant la télé sur votre canapé, puis à déprimer un petit peu, vous sortez dehors pour aller acheter votre pain, si vous croisez 6 personnes, il y en a une qui est en situation de handicap. Elle vit au milieu de vous, on fait les mêmes choses, on a les mêmes envies, on a le même caractère, hein. On peut aussi être insupportable, ou mais le handicap n'est pas un caractère en soi, on n'est pas déprimé plus que les autres et on n'est pas tous capables de faire les Jeux Olympiques. Et bien entre ces deux extrêmes, on va dire, et bien on a des citoyens comme vous et moi qui ont exactement les mêmes envies, qui ont les mêmes volontés. Alors, reconnaissons aujourd'hui que la ville et la cité quand même s'ouvrent aux personnes en situation de handicap et aux différences, mais c'est un combat permanent.
Et notamment, on s'ouvre aussi parce que depuis 20 ans, on a quand même mis le paquet sur l'accessibilité déjà, et puis on a cassé des tabous, notamment dans notre manière de parler du handicap.
Tout à fait, en parlant de personnes en situation de handicap ou personnes handicapées, vous avez mis le mot personne devant. On n'est pas un handicapé, enfin c'est pas un troisième sexe le handicap par exemple. Donc c'est important effectivement de situer la personne. Alors c'est vrai, vous avez raison, on a fait des progrès en accessibilité. Alors là je vais aller sur le champ du handicap moteur, peut-être un peu plus spécifiquement. Si vous avez une ville dont les trottoirs ou dont les établissements ne sont pas accessibles, moi je suis à l'arrêt dans ma vie, je ne peux pas bouger. Donc c'est important que la ville soit accessible et puis ça va bénéficier à tout le monde. Hein. Ça va bénéficier, vous, quand vous avez une valise, je prends l'exemple de la gare de Tarbes, mais je pourrais en citer d'autres, c'est celle qui me vient spontanément. Pendant plus de 2 ans, on devait franchir les escaliers pour passer d'un quai à l'autre avec une valise de 20 kilos. Ce n'est pas évident, quelle que soit la personne, avec des enfants plus une valise et une poussette. Aujourd'hui, il y a un ascenseur qui fonctionne à nouveau. C'est un confort pour tout le monde, mais c'est une nécessité. Alors, il se trouve que l'année dernière, on a fait paraître, on travaille dans un cadre d'un collectif avec d'autres associations sur le handicap visuel et le handicap moteur, le guide Mi-Chemin. Alors, un petit clin d'œil, on n'a pas sorti le guide Michelin, on n'a pas donné des étoiles. On a sorti le guide Mi-Chemin parce que on était aux 20 ans de la loi de 2005, une grande loi pour la citoyenneté des personnes. Et il y avait un volet notamment très important sur l'accessibilité. On ne s'est pas réveillé 10 ans après, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, en disant ça y est, youpi, tout est accessible. En fait, ça a pris et ça prend encore du temps.
Alors, il y a un troisième volet encore dont vous devez nous parler, mais quand même, on reste sur ce deuxième volet parce que pourquoi ça a mis autant de temps et pourquoi ça met autant de temps? Pourquoi c'est si compliqué de concrétiser cette question de l'accessibilité depuis 2005 quand même? On a eu du temps, on a eu des moyens pour faire les choses. Alors, il y a des choses qui ont été faites, mais finalement, c'est vrai, vous parlez de la cité, bon, quand on regarde autour de soi, il y a quand même encore beaucoup de quartiers, de villes, de communes plus petites, plus modestes. Ça pose aussi la question de la capacité financière qui ont encore du chemin à faire, pour reprendre le mot que vous employez.
Ah, je crois que le premier frein, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire c'est la personne, c'est le regard qu'on va porter vers les personnes en situation de handicap. C'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de mentalité, de tradition aussi que nous avons, de ne pas intégrer systématiquement l'accessibilité comme elle devrait être intégrée dans les projets que nous avons. La première loi, c'était 1975. Tout ce que nous avons construit depuis 1975, si la loi avait été respectée, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Idem pour la loi de 2005.
Ah ben alors encore plus pour la loi de 2005 qui venait renforcer ça. Intégrer l'accessibilité, c'est comprendre pourquoi, par exemple, c'est important d'avoir un contraste visuel, que le mur et la porte ne soient pas de la même couleur pour que les personnes qui ont une déficience visuelle repèrent tout de suite la porte. Et quand la poignée, en plus, elle a une autre couleur, elles vont le repérer tout de suite. Rentrer dans un sanitaire où tout est blanc, eh ben, si j'ai un problème visuel, je vais avoir du mal à me repérer.
Mais c'est pas forcément une question de volonté, c'est aussi une question de méconnaissance. Les gens ne savent pas tout ça.
Vous avez tout à fait raison. Une méconnaissance, et je déplore qu'encore dans le cursus des architectes, dans leur cursus de formation, la place donnée à l'accessibilité, elle est trop réduite. L'accessibilité numérique, et là, sont nos amis en situation de handicap visuel qui la réclament haut et fort, elle n'est pas intégrée systématiquement dans les sites. Quand vous allez visiter un lieu, vous faites vos recherches sur Internet, c'est compliqué d'avoir des informations sur l'accessibilité. Donc, il n'y a pas un surcoût énorme quand on prévoit un bâtiment qui est accessible. Où ça devient compliqué, c'est que quand on ne l'a pas intégré, on ne l'a pas fait correctement, ben, c'est compliqué.
D'où la nécessité d'avoir dans ces équipes des personnes qui sont de structures comme la vôtre ou qui sont elles-mêmes en situation de handicap pour pouvoir alerter, expliquer et faire un peu de pédagogie en fait.
On parle avec les communes, on parle avec les décideurs, les communautés de communes, avec la préfecture. On sensibilise, on explique. Parce que si je n'explique pas et si je ne leur dis pas pourquoi c'est important, ben quand je vais faire les travaux, je ne vais pas le faire correctement. Pourquoi c'est important qu'entre une pente à 5% et à 7%, ben, mettez-vous dans un fauteuil, vous verrez la différence. Donc tout ça, une fois qu'on explique, qu'on dialogue, qu'on nous permette de venir dialoguer, parce qu'on n'est pas des jusqu'au boutistes de l'accessibilité. Parfois, c'est peut être compliqué, parfois c'est pas possible, mais on arrive quand même très souvent à trouver des solutions. Laissons-nous faire le chemin pour venir, et vous venez vers nous aussi, qu'on dialogue et qu'on voit ensemble comment on peut améliorer les choses. Chaque fois que ça s'est fait dans cet état d'esprit-là, on a gagné en accessibilité.
Alors, passons au troisième volet.
Oui, alors le troisième volet, c'est ce que nous on appelle le lien social, et ça va vous parler et parler à vos auditeurs. C'est-à-dire que bien souvent encore, la personne en situation de handicap, elle est réduite à son handicap, c'est un objet de soins, c'est un objet de voilà, il faut l'aider, etc. Mais si je réaffirme que c'est avant tout une personne, vous, une fois que vous avez mangé, que vous êtes habillé, que vous êtes levé, que vous avez un logement, votre vie, elle ne se résume pas à ça. La vie, elle est remplie d'interactions avec les autres, de liens, de projets, de rencontres, d'un métier. Ben, c'est exactement comme pour tout le monde. On a besoin de rencontrer du monde, de faire des projets. Et nous sommes à la fois, ce que je dis, un refuge, parce qu'on a besoin de se retrouver parfois entre nous, mais passerelle. Et donc, on propose des activités, des rencontres, on fait des projets. On peut avoir envie d'aller en Espagne, manger une paella ou des tapas, de participer à l'offrande musicale, un formidable festival inclusif sur le département des Hautes-Pyrénées. Ça me permet de saluer David Frey au passage, et son initiative avec toute son équipe. On a envie de faire les mêmes choses. Et donc, il y a encore des secteurs pour le lien social et pour les activités qui est compliqué, l'accès au voyage. Franchissez une agence de voyage, vous êtes en fauteuil roulant, déficient visuel, et j'ai envie de partir à tel endroit. Je pense que l'agence de voyage, malgré sa bonne volonté, va être un peu dans un plan galère.
Alors vous, cette galère, vous la dépassez, puisque mon petit doigt m'a dit que vous organisez des voyages ici.
Oui, alors c'est un défi qu'on relève déjà depuis des années, depuis plus de 30 ans, c'est d'oser. On avait notre fondateur disait « risquons l'impossible ». Allons-y. Moi, je pars du principe que si j'ai envie de faire quelque chose, je vais essayer. Qu'est-ce que je risque ? De ne pas réussir ou de devoir changer un peu mon projet ? Donc oui, effectivement, depuis des années, on organise des séjours vacances grâce à des bénévoles très investis, à une équipe salariale. Cette année, par exemple, on va faire 3 séjours vacances. Un dans le sud-ouest, la destination est en train d'être calée, mais quand même avec 20 personnes. Alors quand je dis le nombre de personnes, c'est moitié-moitié. Personnes en situation de handicap et accompagnateurs. On va partir à Milan.
Parce que carrément.
Mais oui, effectivement, et vous avez compris un peu notre état d'esprit. Il y a des liaisons pour l'Italie ou pour d'autres villes au départ de notre aéroport. Allons-y.
Alors quand vous débarquez, quand vous dites voilà, on arrive, on a un groupe de 30 personnes en fauteuil ou porteuses de handicap. Comment les gens réagissent en face de vous ? Est-ce que il faut des structures, il faut une logistique qui n'est pas comme celle de tout le monde qui peut prendre sa valise, la jeter dans une voiture, et il y a quand même une organisation, on imagine, bien plus complexe. Comment réagissent vos interlocuteurs quand vous dites que qui vous êtes et comment vous arrivez ?
Alors, vous avez raison de le rappeler, parce que ces projets-là, on les travaille un an et demi à l'avance. Ah oui, on a un grand voyage, celui où il y a une grosse capacité avec 25 personnes en situation de handicap et 25 accompagnateurs, et on part dans le golfe du Morbihan, à Saint-Gilda-de-Ruiz, fin mai, début juin cette année. Le défi, c'est de partir aussi avec des personnes qui n'ont pas accès aux vacances aussi facilement que d'autres, et de les remettre dans une dynamique. Je pense à Stéphane, par exemple. Il faut 2 personnes pour l'aider le matin, pour se lever. Et il faut des soins médicaux. Et on a la chance d'avoir une médecin bénévole qui part avec nous chaque année. Et puis, il faut 1h30 pour le coucher le soir et être disponible dans la journée selon ses besoins. Il a fait un voyage, il en a fait 2. Cette année, il ne vient pas. Je me suis dit, mince. Ben non, il fait pas, il vient pas avec nous parce que cette année, il va faire le voyage avec ses auxiliaires de vie. Il va faire son propre projet. Et là, je suis ravie, je suis très contente. Ça y est, il est lancé, c'est parfait, on adore ça.
En fait, c'est ça, la vocation de ce lieu, c'est de oser, de dire aux autres, à tous les autres, les bénévoles, les personnes en situation de handicap, que vous pouvez oser, que vous avez le droit de le faire et que vous avez raison de le faire.
Mais faites-le, voilà, risquons l'impossible, oser. Ça c'est important. Osez, faites-le. Bon, si on vise la Lune, au pire, on arrive dans les étoiles, c'est pas mal non plus. Donc, voilà, c'est un peu tout le temps ce qu'on se dit. C'est un lieu... de projets permanents, c'est un lieu de rire. Alors je nie pas la difficulté du handicap, je nie pas les moments d'émotion, on a vu des personnes partir, on a des moments plus difficiles que d'autres, on a des familles ou des personnes qu'on accueille qui sont vraiment, j'allais dire, en panne, dans la difficulté, voire dans l'angoisse, mais c'est un lieu où on va d'abord prendre le temps, rassurer, de dire que on est vivant. On est vivant.
Voilà, alors on marque une petite pause et on retrouve Odile Le Galliot, son sourire et sa détermination dans quelques instants pour poursuivre cet entretien.
Exactement, à cette pause, on la marque avec le journal régional avec Kevin Mouveau qui est étudiant et qui fait partie de l'école de journalisme de Blagnac.
Bonjour à toutes et à tous. Une grève inédite en France redonne espoir aux patients diabétiques. Au CHU de Toulouse, à l'hôpital Rangueil, un patient atteint de diabète de type 1 a bénéficié d'une intervention exceptionnelle. Une grève simultanée d'un rein et de cellules pancréatiques issues d'un donneur décédé. Résultat, le patient n'est plus dialysé et produit désormais une partie de son insuline. Une prouesse rendue possible grâce à la coordination de 6 équipes médicales. Toujours à Toulouse, la Ville Rose va voir la vie en rose ce week-end. Le grand carnaval de la ville se déroule samedi soir avec le défilé Tous en Rose. Le cortège partira à 19h30 du boulevard d'Arcole, près de la place Arnaud-Bernard, avant de rejoindre les allées Jean Jaurès pour le final en musique. Conséquence, de nombreuses rues du centre seront fermées à la circulation et au stationnement. Côté transport, la station de métro Jean Jaurès ne sera pas desservie entre 16h et minuit. Un ticket spécial à 3€ sera aussi proposé pour l'événement. Trop con maintenant, le carnaval pour le théâtre de rue. Le festival de rue L'été de Vaour célèbre cette année ses 40 ans dans le Tarn, du 4 au 9 août. Pour marquer l'événement, les organisateurs lancent une campagne de contribution afin de financer une édition spéciale. L'objectif ? Proposer une programmation renforcée et créer un spectacle inédit inspiré des souvenirs des habitants. La parole aux jeunes talents dans le Tarn-et-Garonne. La 3e édition du concours départemental d'éloquence se tient mercredi soir au centre universitaire de Montauban. 10 lycéennes et lycéens du département monteront sur scène pour défendre leur plaidoyer devant un jury composé de personnalités du monde académique, judiciaire et culturel. Le thème de cette année rend hommage à Caroline Aigle, première femme pilote de chasse française. L'événement organisé par l'association du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles est ouvert au public dans la limite de 90 places. Une sortie très attendue au cinéma. Le film Planète, coécrit par le scénariste aveyronnais Alain Leirac et réalisé par Mokono Seto, sort ce mercredi dans près de 140 salles en France. Ce long métrage, en préparation depuis maintenant 9 ans, raconte l'aventure de graines de pissenlit propulsées dans l'espace à la recherche d'un nouveau sol. Un film sans parole, porté par des images spectaculaires. Déjà salué dans les festivals, il a notamment reçu le prix Free Précis au Festival de Cannes et une récompense au Festival d'Annecy. Enfin, dernière ligne droite pour les footballeuses de Colomiers. Les Columérines veulent décrocher la première place du championnat de Régional 1 pour accéder au barrage et viser une montée. À 7 jours de la fin, elles occupent la 3e place à 4 points du leader Nîmes. Un retard qu'il faudra combler rapidement, prévient l'entraîneur Guillaume Balaguer à la dépêche. L'équipe reste toutefois sur une large victoire, 6 buts à 1 contre Montauban. Autre objectif de cette saison, remporter la Coupe d'Occitanie.
Merci à Kevin Mouveau, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Voilà pour ce point sur l'info régionale. Retour de l'info à 13h avec toute l'actualité nationale et internationale. Pour cela, eh bien, on sera en connexion, en lien avec les studios de Radio Vatican qui sont à Rome. Pour le moment, retour dans le département des Hautes-Pyrénées avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Radio Présence à Mirande, 104.2.
Alors, on a encore pas mal de questions à vous poser, mais le temps passe, Odile Galliot. Peut-être pour terminer sur cette présentation de la structure, on n'a pas dit le nombre de personnes, à la fois personnes accompagnées, puis les personnes bénévoles et les personnes salariées qui sont ici avec vous.
Alors là, je vais avoir le volet Hautes-Pyrénées. Sur le département des Hautes-Pyrénées, c'est à peu près 1000 personnes que nous accompagnons dans nos structures, hors 10 ans, et avec des enfants et des adultes, sur le secteur d'Arras-Marsous et Argelès, et les personnes qu'on accompagne à domicile. On a une équipe salariale pour la partie délégation départementale de 5 salariés. On a un dispositif Habitat Inclusif, on va en ouvrir un autre bientôt. On a plusieurs services comme ça. Et puis j'ai la chance d'avoir avec mes côtés cette équipe salariale. J'ai des bénévoles. Et ça, c'est précieux. Il n'y en a jamais assez. J'ai des bénévoles très investis politiquement.
Combien de bénévoles ?
Sur le département des Hautes-Pyrénées, nous en avons 170. 170, alors qu'ils s'investissent de façon, selon leurs possibilités, de façon ponctuelle ou de façon plus soutenue, parce qu'ils mènent des missions, ils ont des mandats de représentation, ils viennent régulièrement.
Alors, on a deux sujets importants encore à aborder avec vous, Odile Le Galliot. Je voudrais qu'on parle du coût des fauteuils roulants et des remboursements, puisqu'on en a beaucoup parlé en fin d'année 2025, avec cette possibilité de rembourser les fauteuils roulants. Sans doute y a-t-il des conditions? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est quoi la loi, la règle aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, la règle, c'est que les personnes qui ont besoin d'un fauteuil roulant, c'est quand même une partie importante, et le fauteuil roulant, ce sont les jambes. On n'a pas un fauteuil roulant parce qu'on est devenu feignant. On a besoin de ce fauteuil roulant, qu'il soit manuel ou électrique, à une prise en charge intégrale financièrement. C'est un combat de longues années d'APF France Handicap et d'autres associations à nos côtés. Et enfin, on a été entendu. Un fauteuil roulant, le tarif de base, il est tarif sécurité sociale, il n'est pas très élevé. Par contre, on peut aller pour un fauteuil roulant électrique jusqu'à 15, 20, 30 000 euros avec les options. Et là, on a souvent des personnes avec ce qu'on appelle un reste à charge qui était insupportable et qui pouvaient parfois ne pas avoir accès à leur fauteuil roulant. Et on avait en plus toute une lourdeur administrative pour avoir ce matériel-là. Alors parfois aussi, les fauteuils font l'objet d'options supplémentaires.
Oui, enfin, c'est quand même pas un objet de luxe. Si les absolument personnes pouvaient s'en passer, elles s'en passeraient.
Absolument pas. Même si ça coûte parfois plus cher qu'une voiture, c'est pas du tout un objet de luxe. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a une prise en charge intégrale. On a surtout un guichet unique. C'est plus tout un parcours du combattant pour décrocher une aide ici, une autre aide par là, etc. Même s'il y avait la MDPH, mais ça restait quand même le plan galère. Et 1-2 ans minimum pour avoir ce renouvellement du fauteuil roulant.
Donc en attendant, c'était quoi? C'était des fauteuils roulants bas de gamme, si je puis dire, loués? Enfin, comment ça se passait?
M'est arrivé, moi, de prêter un fauteuil roulant, parce qu'on a quelques matériels qu'on peut récupérer ponctuellement, de prêter un fauteuil roulant à une personne qui avait son propre fauteuil roulant en panne. Ça m'est arrivé de voir des situations où la personne revenait sur un fauteuil manuel, mais comme elle n'a pas l'usage complet de ses mains, elle ne pouvait pas avancer sans l'aide de quelqu'un. On avait des situations tragiques. Alors parfois, c'est de revenir sur un vieux fauteuil manuel, par exemple, en attendant qu'on ait un fauteuil qui soit plus confortable ou qui réponde aux besoins évolutifs de la personne.
En tous les cas, aujourd'hui, toute personne qui a besoin d'un fauteuil roulant, manuel ou électrique, va être aidée et va voir son équipement remboursé intégralement et rapidement.
Rapidement. Alors, vous savez, quand une loi est mise en place, on attend un tout petit peu pour voir comment ça se passe. Donc, on est aussi très prudent. Très content, mais très prudent. On va évaluer, parce qu'on en est encore qu'au premier mois de la mise en place de ce dispositif, évaluer aussi l'impact que ça a, si vraiment c'est plus rapide, si ça n'est pas une complexité supplémentaire pour avoir toutes les... déposer les dossiers, par exemple, mais ça ne devrait pas l'être. En tout cas, c'est ce que nous a dit le gouvernement. Il est demandé aussi au gouvernement, aux revendeurs de matériel médical, de présenter toute la liste des options possibles de façon à ce qu'elle soit dans la liste de remboursement de la sécurité sociale, la LPPR. J'ai un jargon un petit peu technique.
Tout le monde n'a pas besoin de toutes les options?
Non, parfois ça peut être simplement une jambière, parce qu'on a besoin d'avoir une jambe rallongée. Parfois on conduit le fauteuil roulant à droite, parfois on le conduit à gauche. Il me faut un coussin un petit peu particulier. Enfin voilà, il y a plein de... Techniquement, aujourd'hui, on a tout le matériel. Vous savez, on dit souvent ici... voilà, vous voyez mon état d'esprit, on est capable d'aller sur la Lune, on doit être capable d'avoir un fauteuil roulant qui corresponde à mes besoins, je suppose, quand même, si on en est capable d'aller sur la Lune. Donc on est prudent par rapport à la réelle prise en charge et de toutes les options qui sont nécessaires. Il est demandé aussi, je le disais, aux revendeurs de matériel médical d'avoir une certaine cohérence et également de revoir peut-être leur prix à la baisse, parce que c'est de l'argent public et on a vu des flambées parfois de matériel pour les personnes en fauteuil roulant, c'était inacceptable. Mais on est confiant, c'est un peu mon état d'esprit, il y aura certainement des ajustements, il y aura certainement des choses à améliorer encore, mais c'est une avancée majeure et très très importante enfin.
Voilà, et donc ça c'était important d'y revenir parce que ça fait des années que vous travaillez pour obtenir cela, ce remboursement donc des fauteuils roulants. On va parler d'un dernier point pour terminer, Odile Galliotte. Dans quelques jours auront lieu les élections municipales. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais les personnes en situation de handicap, elles ont aussi le droit de voter, bien sûr. Encore faut-il qu'elles puissent recevoir aussi les informations. Comment ça se passe, ça ? Est-ce que de ce côté-là, tout va bien ? Ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire pour que, elles soient vraiment considérées, ces personnes, comme des électeurs qui ont la possibilité et le droit de recevoir les informations pour choisir leur candidat ?
Mais vous avez raison d'en parler, parce que la commune, le village, c'est le premier pas de notre citoyenneté, ouais. C'est là où on vit. Effectivement, et vous avez raison de le rappeler, ça remonte à plusieurs années, toute personne en France a droit de voter. Mmh. Alors, sauf si on est déchu des droits civiques, et selon certaines élections, si on a la nationalité ou pas française. Mais ça n'est, le handicap, quel que soit le handicap, ça n'est pas une exclusion au vote. Et encore des personnes, parfois, qui sont persuadées qu'elles ne peuvent pas voter. Et elles ont un avis. Je peux vous dire qu'elles ont un avis.
Pardon, mais elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de voter parce qu'elles sont en situation de handicap ? Elles pensent que leur handicap est un frein à l'accès au scrutin ?
Mais oui, parce que ça a été considéré bien longtemps comme, effectivement, une personne en situation de handicap mental, par exemple, n'avait pas la capacité de pouvoir voter. Mais non, absolument pas. Et donc aujourd'hui, quelle que soit la situation de handicap, on est des citoyens et on a le droit de vote. Donc nous, on dit aux personnes en situation de handicap, regardez, il y a parfois du ressenti aussi en choisir une personne parce que finalement, d'après ce qu'elle dit ou parce qu'on a entendu le mot handicap ou la façon dont je vis dans ma ville et que je vois ma ville ou mon village évoluer, je suis confiant et je vais voter pour cette personne-là. Allez voter. S'il y a des difficultés de transport, vous pouvez nous le dire également à APA France Handicap. Ça peut s'organiser. On va dire qu'aujourd'hui, globalement, techniquement, sur le handicap moteur, les bureaux de vote sont accessibles. On en a fait déplacer, hein, au besoin.
Dans des communes plus modestes, plus petites, c'est parfois peut-être plus compliqué de rendre un bureau de vote accessible aux personnes en fauteuil.
Aujourd'hui, non. Alors, aujourd'hui, non, si on pense tout de suite qu'il peut y avoir des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Une école primaire, il y en a quand même dans beaucoup de communes. Une salle qui soit accessible. On déplace juste le bureau de vote au lieu de le mettre au deuxième étage.
Et là, les élus sont réceptifs à cette question-là.
Oui, 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 oui. Ils sont réceptifs. Et si on est alerté au premier tour qu'il y a un bureau de vote qui n'est pas accessible, eh bien, on intervient tout de suite et, en général, ça change. Oui, oui, absolument.
Je voudrais savoir comment les personnes, vous parliez tout à l'heure de personnes en situation de handicap déficient visuel. Là, typiquement, comment elles sont informées? On ne voit pas beaucoup, ou alors on ne le sait pas, de campagnes qui sont adaptées aux personnes déficientes visuelles.
Alors, vous savez, la première des choses, c'est qu'un candidat aux élections doit considérer, enfin, ne pas oublier que les personnes en situation de handicap font partie de leur électorat. Mmh. Et qu'à ce titre, il faut aussi se mettre, connaître leurs besoins, dialoguer avec elles, parler d'accessibilité, mais parler d'accessibilité numérique notamment, parce que c'est encore quelque chose qui est bien en panne en France aujourd'hui. Prendre en compte toute cette diversité, et les personnes en situation de handicap se sentiront concernées par les élections. Alors, on pense parfois qu'il faut un bulletin en braille. Non, en général, c'est relativement simple, mais c'est avoir un langage adapté pour être compris de tout le monde. Vous savez, parler avec des mots simples, parfois, c'est aussi se faire comprendre de n'importe quel public. Le discours politique, on peut le simplifier parfois. C'est pouvoir avoir des bureaux de vote accessibles. Ne pas se dire, si vous ne pouvez pas venir, il y a la procuration. Bon, la procuration, elle peut être entendue si la personne est malade ou en déplacement, par exemple, ou absente. Mais ça n'est pas une solution pour accueillir des personnes en situation de handicap au bureau de vote. Certainement pas. Nous, on...
C'est pas le nivellement par le bas.
C'est pas le nivellement par le bas. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Je suis certaine qu'aujourd'hui les personnes s'impliquent plus. On voit d'ailleurs des personnes en situation de handicap assez fréquemment sur des listes électorales.
Alors oui, voilà, elles peuvent aussi être candidates et ça c'est quand même très important et d'ailleurs elles ont sûrement beaucoup de choses à apporter en termes notamment de réflexion sur l'accessibilité, mais pas seulement.
Elles sont souvent sur des listes, elles sont candidates. Attention, faut pas que ce soit non plus pour faire valoir en disant j'ai une personne en situation de handicap sur ma liste.
Je pense. Ni non plus que ce soit juste pour régler les problèmes d'accessibilité.
Exact. C'est bien plus que ça, la situation du handicap. Ouais. Il y a l'accessibilité, certes, mais tout ce que je fais, comment j'anticipe et comment je fais pour pouvoir accueillir les personnes, quelle que soit leur différence dans ma ville.
On arrive déjà au terme de cet entretien, Odile Le Galliot, mais c'est passionnant, mais on reviendra vous voir si vous voulez bien, parce que d'abord l'accueil est sympathique et puis il y a beaucoup de choses encore à dire, mais quand même restons pour terminer sur ce scrutin municipal. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que directrice APF France Handicap, vous avez envie de dire aux candidats et qu'est-ce que vous aurez envie de dire aux élus dans quelques semaines ?
Nous avons publié un plaidoyer au niveau national, un plaidoyer APF France Handicap, que nous adressons aujourd'hui aux candidats. Par un souci de neutralité, nous ne les recevons pas, nous rencontrerons les maires et certains nous connaissent bien déjà. Ce que j'ai envie de dire aux candidats, nous sommes 6 à 7 millions de Français en situation de handicap. Il y a 12 millions d'aidants. En France. Pardon, je dis 6 à 7 millions, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap et 12 millions d'aidants, ce qui en fait quand même une proportion importante de la population. Vivons ensemble, apprenons à vivre ensemble, apprenons de nos différences. Nous sommes à vos côtés, risquons l'impossible, mais ensemble.
Merci beaucoup, Odile Le Galliot. Merci beaucoup pour ces informations, pour votre accueil. Et puis à très bientôt sur les ondes de Radio Présence pour d'autres sujets. On n'a pas fini de découvrir les actions d'APF France Handicap. Et en tous les cas, en attendant, bon préparatif pour les voyages dans le Morbihan.
Merci beaucoup. Merci également pour votre accueil. Ce fut un plaisir de dialoguer avec vous. À bientôt.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Un parcours de plus de 650 km qui relie l'Atlantique à la Méditerranée. Ce parcours s'appelle Vélo Sud. Bonjour Laurent de l'Office de Tourisme.
Bonjour Gilles.
Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va faire du vélo avec ce parcours. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, complètement. Donc c'est une nouvelle voie cyclable en fait. Alors elle est en mix, elle est partagée. Donc sur à peu près un tiers du parcours, on est sur vraiment de la voie cyclable dédiée pour les vélos et 420 km donc en parallèle, ça c'est la partie qui est route partagée. Donc on a un peu un mix des deux selon les tronçons, à la fois des voies cyclables, à la fois des routes partagées. Et ça permet effectivement de pouvoir changer la route d'école puisqu'on connaît bien la route d'école qui va vraiment passe par tout l'école des Pyrénées. Permet de traverser les Pyrénées d'un côté à l'autre. Et là, c'est plutôt exigeant, c'est vraiment pour les cyclosportifs. Et cette route, en fait, du Piémont-Pyrénées, ça reste plutôt cyclotouriste cette fois-ci. Donc là, c'est plutôt sportif du dimanche, entre guillemets, ou amateur de vélo, mais qui aime plutôt contempler, pas forcément se faire mal. Et donc voilà, c'est une route en 13 étapes qui va en fait de Biarritz à Barcarès. Et voilà, on peut comme ça longer de façon très agréable, en fait, toutes ces chaînes des Pyrénées, en fait, le long de la route.
On part de Biarritz pour arriver donc à Barcarès. En ce qui nous concerne, il y a une étape entre Pau et Lourdes, et ensuite Lourdes-Lannemezan.
C'est vrai, et alors effectivement cette route elle peut se faire soit en itinérance pour quelqu'un qui veut en fait parcourir en fait les 13 étapes et donc là ça va demander plusieurs jours, soit elle peut se faire aussi à l'occasion d'un week-end et de vacances et là ça peut être simple, il suffit de prendre un TER à la Lourde et de partir avec son vélo, alors hors heure de grosse fréquentation c'est possible de prendre le train avec son vélo et descendre à Pau et de Pau bah du coup revenir sur Lourdes via la Vélo Sud, donc là c'est un parcours de 50 km en fait qui va suivre en fait Pau, Naye, on va aller après sur l'Est Albétarame, Saint-Pé-de-Bigorre et on finira par arriver via le bois de Lourdes, le sanctuaire à Lourdes.
Alors sur le parcours, eh bien le parcours est balisé avec des panneaux de signalisation qui sont déployés.
Complètement, c'est ça. Donc on arrive à suivre en fait la route par rapport à ces panneaux. Bon, ce qui est important à savoir, c'est que sur les principales villes, on va trouver forcément des points d'eau. À Naye, il y a aussi des loueurs, des réparateurs, voilà. Et après, bah, sur les tronçons intermédiaires, on est un peu tout seul. Donc, on va enchaîner les paysages. Donc, on sortir de Pau, bah, on va longer le gave de Pau. On va être dans les plaines. Et donc, comme ça, on verra différents types de paysages jusqu'à arriver après à Naye. Voilà, avec là aussi le gave, les cours d'eau. On va passer Naye pour aller vers l'Est Albétarame. Et là, on va commencer à voir arriver les Pyrénées. De plus en plus près et on va longer, donc là ça va être un peu plus avec des petites montées, des petites descentes, c'est pas extrêmement fort en termes de dénivelé, donc on peut le faire assez facilement voilà, les paysages s'enchaînent et c'est vraiment pas monotone en fait, les 50 km se font assez facilement et avec beaucoup de plaisir parce que voilà, on peut s'arrêter en cours de route, pique-niquer, boire un peu d'eau pour reprendre des forces et arriver tranquillement sur Lourdes.
Voilà, et la difficulté pourrait être atténuée si on utilise un vélo à assistance électrique.
C'est tout à fait possible, on peut très bien se prendre un VTC ou un VTT à assistance électrique et à ce moment-là... Alors effectivement, vous parlez du vélo, c'est bien de le préciser, ça s'adresse principalement à du VTC ou du VTT aussi. Le vélo route n'est pas recommandé parce que voilà, il y a des partie effectivement bitumée en voie dégagée, donc là c'est possible. Par contre il y a des parties qui sont un peu plus caillouteuses ou pierreuses et là vaut mieux avoir des pneus un peu plus larges, un peu plus solides. Donc ça peut être du gravel, ça peut être du VTT ou du VTC, mais j'éviterai le vélo de route pour les spécialistes, c'est pas idéal.
Voilà. Ça s'appelle Vélo Sud, hein, 13 étapes donc entre Biarritz et Barcarès, Vélo Sud donc qui passe dans le département des Hautes-Pyrénées, hein, vous l'avez dit, Pau, Lourdes, Lannemezan, Saint-Gaudens, sur notre zone d'écoute. Un grand merci Laurent, je rappelle que vous faites partie de l'Office de Tourisme de Lourdes et on se dit à très vite pour une nouvelle chronique.
Merci Gilles, à bientôt à Lourdes.
Balade en pays de Lourdes en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
On était quelques hommes, quelques hommes, quelques femmes rêvant de liberté.
On n'était pas à vendre, mais on pouvait revendre des montagnes d'amitié.
Le cœur en bandoulière et les bras grands ouverts à tous les étrangers.
On n'avait pas de peur, on sentait la chaleur qu'on savait se donner.
force. On aidait les plus faibles à ne jamais tomber.
Même au milieu des chimères, on y croyait plus fort quand le courage manquait.
Pour vous mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelles que soient vos histoires, n'oubliez jamais qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse. S'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier.
On était plein d'ardeur et l'on sortait vainqueur de nos pauvres blessures.
Quand les pleurs étaient lourds, on se trouvait toujours une voix qui nous rassure.
On avait tant d'envie qu'on voyait notre vie comme une belle aventure.
On n'avait pas de maître, la seule à nous soumettre était la mère nature.
Même au fin fond du désert, on aidait les plus faibles et quitte à y rester.
Même au milieu des chimères, on y croyait plus fort quand le courage manquait. Oh vous mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelles que soient vos histoires, on n'oublie jamais qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse. S'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier.
Même au fin fond du désert,
on aidait les plus faibles à ne jamais tomber. Même au milieu des chimères,
on y croyait plus fort quand le courage manquait.
Oh vous mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelle que soit mon histoire, non je n'oublie jamais. Et aujourd'hui encore je refais la promesse, s'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier. Mes compagnons, mes amis de jeunesse,
quelles que soient vos histoires, ne m'oubliez jamais.
Et si un jour je tombe, faites-moi cette promesse.
S'il n'en reste qu'un, vous serez ce dernier.
Ce dernier.
Ce dernier.
À Mirande 104.2
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le Liban prise en étau entre frappes sur Beyrouth et dans le sud du pays, les bastions du Hezbollah sont